Donc, mon nom est l'abbé Toulza, donc vous l'avez vu écrit ici et là. C'en est des quatre noms des prêtres qui vous aident ici. Donc, il vaut mieux que je me présente seul, parce que si vous vous présentez, je crois que ça sera un petit peu long. Donc, j'ai été ordonné en 1996, et puis j'ai fait du ministère dans une école, un petit peu en parallèle dans une paroisse, et puis maintenant, depuis quelques années, je suis dans un séminaire, j'enseigne dans un séminaire. Icône. Ce soir, nous allons parler de l'Écriture sainte. Alors, a priori, on peut se demander si ce n'est pas un petit peu excessif de parler de l'Écriture sainte dans une retraite spirituelle. Est-ce que ce n'est pas un peu irréaliste de souhaiter que les fidèles, les dames, les demoiselles s'inspirent un peu de la Sainte Écriture pour leur vie spirituelle? En fait, il n'en est rien. Bien sûr, nous sommes loin aujourd'hui de ce qu'il y a de la pratique de la Sainte Écriture, de la fréquentation de la Sainte Écriture qu'il y a pu y avoir dans les siècles passés. Mais enfin, il faut petit à petit revenir aux sources et comprendre l'importance de la parole de Dieu dans la vie de l'âme. Alors pour ce faire, eh bien, dans un premier temps, nous verrons ce que c'est que l'Écriture sainte. Dans un deuxième temps, le rapport entre l'Écriture sainte et notre vie spirituelle. Et enfin, dans un troisième temps, eh bien, dans le temps qui nous est imparti, nous verrons un petit peu à travers des exemples comment effectivement enrichir la vie surnaturelle de notre âme à partir de la Sainte Écriture. Alors d'abord, qu'est-ce que l'Écriture sainte? Donc ce sont des rappels un petit peu doctrinaux. Le bon Dieu, vous le savez, n'a pas laissé l'homme dans l'état naturel dans lequel il aurait pu le laisser. Il a promis de l'élever à l'ordre surnaturel, de lui promettre le ciel, la vie éternelle, qui est une vie surnaturelle. Et donc, pour cela, eh bien, il a fallu qu'il lui révèle, qu'il lui enseigne des choses que par sa raison, il ne pouvait pas connaître. C'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est Dieu qui révèle à l'homme des mystères qui le concernent. Dieu s'est révélé depuis Adam jusqu'à la mort de l'apôtre Saint Jean. Et là où il s'est révélé, c'est dans deux lieux. C'est là où il parle aux hommes pour leur enseigner des choses qu'ils ne peuvent pas savoir par leur propre raison. C'est donc dans l'Écriture sainte et dans la tradition. C'est ce qu'on appelle en théologie les sources de la révélation. Alors donc aujourd'hui nous parlons de la Sainte Écriture qui est la parole de Dieu, écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui parle pour, comme le dit Saint Paul à Timothée, nous enseigner, reprendre, corriger, instruire. La Sainte Écriture c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'auteur humain qui a écrit la Sainte Écriture, écrit de fait, eh bien, Dieu compose avec lui, et l'auteur sacré compose dans la dépendance de Dieu. Vous voyez, lorsque, par exemple, Saint Paul écrivait des lettres aux Romains et aux Corinthiens, c'était tout différent de lorsqu'il écrivait des lettres, par exemple, à sa famille. Lorsqu'il écrivait des lettres à sa famille, il les écrivait, c'est lui qui les écrivait, c'est pas le bon Dieu qui les écrivait. Bien sûr, le bon Dieu était cause première, comme on dit, c'est-à-dire que c'est sous la dépendance du bon Dieu qu'il écrivait parce que c'est sous la dépendance du bon Dieu qu'on fait tout ce qu'on fait, comme vous l'avez vu dans l'instruction sur Dieu et les perfections divines. Nous sommes complètement en dépendance de Dieu. Mais dans les livres saints, il y a une dépendance particulière, c'est-à-dire que Dieu illumine l'intelligence de telle façon que l'auteur sacré n'écrit que ce que Dieu veut. Donc lorsque Saint Paul écrit ses lettres aux Romains, aux Corinthiens, etc., il faut bien se dire que ce qu'il écrit, c'est ce que Dieu veut qu'il écrive. C'est la révélation de Dieu aux hommes. Et donc, comme on le dit, l'auteur sacré, que ce soit saint Paul, Moïse, pour le Pentateuque, etc., pour la Genèse, l'écrivain sacré est un instrument. Vous voyez, comme quand vous écrivez, vous avez un instrument dans vos mains, c'est votre stylo. Ce qu'écrit votre stylo, c'est ce que vous avez voulu lui faire écrire. Et de la même façon, lorsque l'auteur sacré écrit quelque chose, l'auteur sacré est un peu comme un stylo dans les mains de Dieu. Donc il écrit ce que Dieu veut. La différence, c'est qu'un stylo n'est pas intelligent, il n'est pas libre, tandis que l'auteur sacré, lui, est intelligent et libre. Et donc lorsque nous... Vous voyez déjà un petit peu les conséquences, on y reviendra. Lorsque nous lisons un livre saint, lorsque nous entendons l'évangile à la messe, l'épître, eh bien il faut l'écouter, pas du tout comme on écouterait quelque chose d'autre, n'importe quoi d'autre. Il faut l'écouter avec un esprit de foi, se disant, mais ces paroles ne viennent pas des hommes uniquement. Elles viennent d'abord de Dieu, et elles viennent des hommes parce qu'elles viennent de Dieu. Alors, lorsque Dieu me dit, bienheureux les doux, lorsque l'évangéliste saint Matthieu dit bienheureux les doux, mais c'est Dieu qui dit bienheureux les doux. Lorsque dans la Genèse, ces magnifiques descriptions des six jours de la création, eh bien dans ces passages nous lisons Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Gardons-nous de lire ces paroles comme si nous lisions des paroles des hommes. C'est Dieu qui parle. Quelle autorité va nous dire que c'est véritablement tel et tel livre qui, parmi les livres qui se trouvent dans l'Église, sont des livres inspirés. Quelle est la garantie qu'un livre a été inspiré? Eh bien, c'est l'affirmation de l'Église. L'Église, c'est elle qui définit que tel et tel livre sont inspirés. C'est ce qu'on appelle le catalogue des livres sacrés, c'est le canon. Canon en grec, ça veut dire règle, c'est la règle, c'est-à-dire que tel livre... par exemple, les quatre évangiles de saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean font partie des écrits inspirés. Mais par contre, d'autres, ceux qui ne sont pas dans le canon et dans la liste donnée par le Concile de Trente, eh bien, ne sont pas inspirés. Et bien sûr, lorsque nous lisons la Sainte Écriture, nous devons nous rappeler que c'est l'Église qui possède la Sainte Écriture. Elle est livrée par Dieu à l'Église. C'est l'Église donc qui est gardienne de la vérité révélée et donc de cette source de la vérité révélée qui est la Sainte Écriture. C'est donc elle qui va interpréter la Sainte Écriture. Donc, lorsque nous lisons un texte de la Sainte Écriture, que nous voulons savoir ce qu'il y a dedans, nous devons d'abord nous plier à l'enseignement de l'Église. Alors évidemment, les textes qui par l'Église sont, dont l'interprétation est définie solennellement par l'Église, sur lesquels il n'y a au plus aucun doute à avoir, il y en a très peu. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. Mais pour tout le reste, eh bien, même si nous n'avons pas toujours de définition, nous devons nous référer à l'interprétation qu'en font, même si elle n'est pas solennelle, infaillible, l'interprétation qu'en font tout un tas d'écrits, en particulier les pères de l'Église. Par exemple, lorsque nous voyons dans la Sainte Écriture notre Seigneur qui dit « Le Père est plus grand que moi », alors spontanément, parce que nous sommes catholiques, nous savons l'interpréter. Nous disons, ben, ça veut dire simplement que notre Seigneur en tant qu'homme est plus petit que le Père en tant que Dieu. Ce qui ne veut pas dire que notre Seigneur en tant qu'il est Dieu est plus petit que le Père en tant qu'il est Dieu. Parce que notre Seigneur en tant qu'il est Dieu est l'égal du Père. Donc il n'est pas plus petit. Bon, ça c'est spontanément le sens catholique qui l'affirme. Mais en fait, nous nous fondons. Ce qui nous donne la garantie que cette interprétation est la vraie, ce n'est pas notre propre personne, parce que nous ne sommes pas protestants. Ce qui nous donne cette garantie, eh bien, c'est l'autorité des pères de l'Église qui l'interprète ainsi. Je me souviens avoir parlé avec un jeune garçon qui était à Paris dans la secte de l'Église du Christ, je crois que c'est l'église du Christ de Paris ou l'église de Paris du Christ, je ne sais plus, peu importe. Et alors nous avions parlé de ce passage, et effectivement, il le lisait en disant « le Christ n'est pas Dieu ». Voyez, et justement, c'est ce problème du protestantisme, c'est cette interprétation propre. Nous référons à l'interprétation de l'Église, qui nous donne le sens de l'Écriture. Alors, dans le sens de l'Écriture, dernier rappel dogmatique, doctrinal, il y a essentiellement deux grands sens. Le premier qui est le sens premier, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sens littéral, ce que le Saint-Esprit veut d'abord dire. Voyez, par exemple, lorsque l'Évangile raconte le miracle de Cana, eh bien, quel est le sens littéral? Qu'est-ce qui est d'abord dit là-dedans? Eh bien, c'est d'abord l'histoire du premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, purement et simplement, le sens littéral. Alors, ce n'est pas donc là, c'est un sens propre. C'est ce sens littéral dans cet exemple des noces de Cana est un sens propre. Mais parfois, le sens littéral est un sens métaphorique, c'est-à-dire que ce n'est pas d'abord au sens propre qu'il faut prendre les choses, mais au sens métaphorique. Lorsque notre Seigneur dit, par exemple, si ton œil est pour toi une occasion de scandale, alors arrache-le. Bon. Là, il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner de façon directe et première, le sens littéral. Est-ce que ce sens littéral est propre au sens propre? Non, évidemment. Notre Seigneur ne nous demande pas d'arracher nos yeux. C'est un sens métaphorique. Ça veut dire enlève les occasions de péché. Donc ça, c'est le sens littéral, le sens premier qui est voulu, le sens propre ou métaphorique. Et ensuite, eh bien, il y a d'autres sens, très souvent, en particulier le sens spirituel, qui se fonde sur le sens littéral et qui peut être de divers types. Bon. Le sens spirituel. Prenons un exemple, les miracles de Cana. Le sens propre des miracles de Cana, c'est l'histoire du premier miracle de notre Seigneur. Maintenant, le sens spirituel, vous le savez bien, c'est une figure du miracle de la Sainte Eucharistie. Voyez ? Donc, lorsque nous lisons la Sainte Écriture, eh bien, il nous faut d'abord aller au sens littéral, et puis parfois essayer de trouver le sens spirituel. Alors tout de suite un petit peu de bibliographie. Bon, bien sûr, il y a la Sainte Écriture elle-même qu'il faut lire, c'est le but de cette instruction. Et puis alors vous pouvez aller lire, il y a mis à votre disposition, je ne sais pas si c'est en vente ou en prêt, les œuvres de Don de Montléon. Don de Montléon qui est vraiment une excellente introduction à l'apprentissage de la Sainte Écriture. Don de Montléon, donc c'est un moine, bénédictin, je crois, ou cistercien, peu importe, qui a fait des commentaires sur la Sainte Écriture qui sont très très accessibles et très très fructueux. Vraiment, on profite énormément. Hein, ça se lit facilement. D'ailleurs, vous les connaissez sans doute peut-être déjà. Sans doute déjà. Donc, vous avez les œuvres de Don de Montléon qui permettent d'accompagner la Sainte Écriture. Vous avez aussi évidemment tous les auteurs, tous les pères de l'Église qui ont commenté la Sainte Écriture. Par exemple, lire le commentaire des psaumes par saint Augustin. Donc, on peut lire la Sainte Écriture avec les pères de l'Église. Donc, alors ça, il faut simplement regarder. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je vais citer le commentaire qu'a fait saint Augustin sur la première épître de saint Jean, qui est un très très beau, une très belle introduction à l'épître de saint Jean, qui est un chef-d'œuvre de saint Augustin. Donc la première épître de saint Jean, saint Augustin en a fait un commentaire, qui est d'ailleurs publié ici et là. Là, c'est collection Foi Vivante, aux éditions du Cerf. Ça s'appelle « Il n'y a qu'un amour », mais en fait, c'est le véritable titre, c'est le commentaire de la première épître de saint Jean. Vous voyez, c'est des livres qui sont trouvables. Hein. On en trouve dans nos tables de presse de temps en temps, en cherchant bien, et on trouve des œuvres des pères de l'Église qui sont des commentaires des pères. Et c'est vrai que c'est très bon de se nourrir de ces choses-là. Très bon, et ça nous fait aimer la Sainte Écriture. Don de Montléon, c'est pareil, fait aimer la Sainte Écriture. Voilà pour ce que c'est que l'Écriture Sainte. Alors maintenant, dans un deuxième temps, nous allons voir un petit peu quel est le rapport de l'Écriture Sainte à notre vie spirituelle. Dans la Sainte Trinité, dans le bon Dieu, vous savez qu'il y a trois personnes. La deuxième personne, c'est le Fils qu'on appelle le Verbe. Le Verbe parce qu'il est la conception personnelle qu'a Dieu de lui-même. Verbe. Verbe, ça veut dire de... Verbe, mot verbe en français, vient de verbum en latin. Verbum, ça veut dire mot en latin. Mot. Mot, or le mot, quand je prononce un mot, il est là pour renvoyer à une idée. Vous voyez que j'ai. J'exprime une idée, mes idées par des mots. Donc le mot verbe est rendu en latin par verbum, qui veut dire mot, et verbum veut dire non seulement mot, mais par dérivation l'idée, puisque le mot exprime l'idée. Donc verbum veut dire idée. Verbe, en philosophie, ça veut dire idée. Et Dieu se connaît. Vous allez voir ça dans la prédication sur la Sainte Trinité. Dieu se connaît et il a une idée de lui-même. Je simplifie, hein. Il a une idée de lui-même et cette idée est une personne divine. Et cette idée, on l'appelle le Verbe. Le Verbe est donc la connaissance de Dieu exprimée en idée. Et comme Dieu est simple, vous l'avez vu peut-être tout à l'heure dans les perfections divines, le Verbe est simple. Le Verbe est simple. Et quand Dieu se révèle, nous disions tout à l'heure, Dieu veut se révéler, Dieu veut se révéler à nous, il va révéler la simplicité. Mais nous sommes compliqués. Nous sommes compliqués d'abord spirituellement parce que, eh bien, l'homme est naturellement, en raison du péché originel, compliqué. Il complique sa vie spirituelle. Et surtout dans notre siècle, qui est un siècle peut-être un peu plus compliqué que d'autres. Et également, nous sommes compliqués par nature, et cette fois-ci indépendamment du péché originel. Notre nature humaine est nécessairement compliquée, parce qu'elle est dans le temps, donc il lui faut des choses. Mais par exemple, pour connaître quelqu'un, ça prend du temps. C'est compliqué. C'est compliqué, pas dans le sens péjoratif du terme, mais c'est pas d'un coup qu'on connaît quelqu'un. C'est pas en le voyant pour la première fois qu'on le connaît très bien. Alors que l'ange, lui, connaît très très bien du premier coup. Nous mettons du temps. Eh bien, c'est la même chose vis-à-vis du bon Dieu. Le Verbe est simple, mais pour le connaître, il nous faut du temps. Nous sommes compliqués. Naturellement, par nature, parce que le bon Dieu nous a fait ainsi, et en plus en raison du péché originel et de nos péchés et du monde contemporain. Donc nous sommes compliqués. Et alors le bon Dieu sait que nous sommes compliqués, qu'il nous faut du temps, et que pour aller au simple, nous passons par le compliqué. Et alors il va passer par la Sainte Écriture, qui est longue, qui n'est pas simple, qui prend du temps, qui a une certaine complication. Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va s'adresser à nous. Au ciel, les élus ont une connaissance du bon Dieu qui n'est pas compliquée. Ils n'ont pas besoin de la Sainte Écriture. Ils voient Dieu face à face. Et tout est simple. C'est très facile, c'est direct, c'est instantané. Et c'est éternel. Mais nous, sur terre, nous ne pouvons pas voir ça. Et alors le bon Dieu va nous parler à travers des mots. Il va se révéler à travers les mots de la Sainte Écriture, les mots de la tradition, les paroles. Et tout doucement, il va nous parler ainsi. Alors, il faut passer par cette complication. Et finalement, le Verbe se révèle à nous par la Sainte Écriture. Le mot, pour ainsi dire, l'idée du Père se révèle à nous par le mot de la Sainte Écriture. Et donc, dans le Verbe, dans les Verbes de la Sainte Écriture, nous avons le Verbe de Dieu. Vous voyez ? Le Verbe est la parole de Dieu qui s'exprime dans la parole sacrée. C'est pour ça que nous devons avoir un si grand respect pour la Sainte Écriture. Elle est un signe de Dieu. Toute notre vie surnaturelle, notre vie intérieure, a pour but d'accéder à Dieu, à la vie surnaturelle promise par Dieu. Et pour ça, il faut nous appuyer sur la révélation que nous aurons dans la Sainte Écriture. Vous savez qu'il est très important... C'est un petit peu l'objectif de ces retraites, de fonder notre vie spirituelle non pas sur du sentiment, mais sur la foi, sur le dogme. Et cette foi, la vérité, le dogme, où les avons-nous ? Dans la Sainte Écriture. Et c'est pour ça, précisément, que même au XXIe siècle, eh bien, il n'est pas farfelu de se nourrir de la Sainte Écriture, parce que la révélation est éternelle. Et les sources de la révélation ne vieillissent pas. Et donc, ce qui a fait la nourriture des siècles passés est bon pour nous. C'est là que nous apprenons à connaître le Verbe. C'est une école, c'est une source de révélation, c'est donc une source de connaissance de Dieu. Est-ce que nous voulons aimer Dieu ? Oui. Et si nous voulons l'aimer, il nous faut le connaître. Et pour le connaître, eh bien, il faut aller là où il se révèle. Et où est-ce qu'il se révèle ? C'est là. Pourquoi les saints aimaient tellement la Sainte Écriture ? C'est parce qu'ils savaient qu'ils trouvaient là Dieu. Il cherchait Dieu. Il lisait pas, comme dit l'imitation, il lisait pas la Sainte Écriture avec un désir de vaine science, de pur savoir, d'érudition. Il lisait en cherchant Dieu. Le moine bénédictin, lorsqu'il rentre au monastère, eh bien, la première question qu'on lui pose en chapitre, c'est « Est-ce que tu cherches Dieu ?» Si vraiment tu cherches Dieu, alors si tu cherches Dieu, viens, rentre. Et s'il rentre, qu'est-ce qu'il va découvrir le moine ? Une vie complètement nourrie de la Sainte Écriture. Les moines d'Occident, pendant des siècles et des siècles, ne sont nourris que de la Sainte Écriture, presque que de la Sainte Écriture. C'était toute leur nourriture spirituelle. Ce n'est pas la nourriture de notre vie surnaturelle de la même façon que d'autres choses. Par exemple, le catéchisme, le missel sont d'autres formes de nourriture de la vie spirituelle. Voyez ? Ce sont des formes plus didactiques. Quand vous lisez un catéchisme, vous avez des questions-réponses. Et dans la Sainte Écriture, c'est pas didactique. Voyez, c'est pas qu'est-ce que Dieu ? Dieu est un pur esprit, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses, etc. C'est pas comme ça. C'est un langage beaucoup plus dilué, beaucoup plus poétique, plus mystérieux, moins scientifique. Mais précisément, notre vie spirituelle n'est pas scientifique. Nous avons besoin d'une connaissance scientifique de Dieu. Elle nous est donnée dans le catéchisme, dans la théologie. Mais nous avons aussi besoin d'une connaissance plus autre de Dieu. Plus poétique, plus moins directe, plus allusive, plus allégorique, plus mystérieuse. Et c'est la Sainte Écriture qui nous la donne. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous aurez peut-être, je ne sais pas si vous avez une instruction sur la lecture spirituelle, mais donc aujourd'hui, dans les exercices depuis le XVIe, XVIIe siècle, dans les exercices du bon chrétien, l'exercice de piété du bon chrétien, il y a une série d'exercices, et en particulier ce qu'on appelle la lecture spirituelle. Donc vous avez la lecture spirituelle, la lecture de la Sainte Écriture. Par exemple, les séminaristes, on leur fait la lecture de la Sainte Écriture, la lecture spirituelle. Mais il fut un temps où il n'y avait pas de lecture spirituelle. La lecture spirituelle, c'était la lecture de la Sainte Écriture. La lecture spirituelle est venue assez tard. Au départ, il n'y avait que la Sainte Écriture, parce tout simplement, d'abord parce qu'il n'y avait pas d'écrivain chrétien, en dehors des auteurs sacrés. Et donc, l'unique nourriture des âmes, c'était ce qu'on appelle la lectio divina, dans les monastères. La lectio divina, la leçon divine. Et c'est très beau, la leçon divine. Parce que celui qui me parle, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Lecture divine. Et les autres, ce sont des lectures humaines. Ça, c'est une lecture divine. Même saint François de Sales, même sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce sont des lectures encore humaines. Ici, j'ai une lecture divine, lectio divina. Et en fait, c'était ce qui nourrissait essentiellement, pendant des siècles, les anciens. Il y avait aussi les actes des martyrs. Petit à petit, il y a d'autres écrits qui sont venus s'ajouter pour compléter cette nourriture spirituelle. Mais essentiellement, c'était la lectio divina. Et les pères de l'Église disaient, attention, pour la vie spirituelle, la Sainte Écriture est capitale. Ils reviennent souvent là-dessus. Il faut lire la Sainte Écriture de façon quotidienne. Pour les pères de l'Église, qu'un moine, peut-être un chrétien, mais assurément un moine, ou un religieux, ou un clerc, passe une journée sans lire la Sainte Écriture, ils n'auraient même pas pu l'imaginer, on peut le penser. Il faut lire avec méthode, faire travailler la mémoire et le cœur, savourer ce qu'on lit. Apprendre par cœur, c'est apprendre avec le cœur. Et par cœur, c'est avec le cœur. La prière doit être en amont de la Sainte Écriture et en aval. En amont, parce que je dois prier avant de lire la Sainte Écriture, pour pouvoir bien lire la Sainte Écriture. Et par exemple, c'est une vieille pratique dans l'Église, on ne lisait la Sainte Écriture en privé qu'à genoux. Sauf pour l'Évangile, peut-être. On la lisait à genoux par respect. Donc il faut prier avant, pour comprendre, pour ce qu'on peut comprendre. Et ensuite, il faut prier après, en aval, parce que la lecture mène à la prière. Saint Grégoire le Grand disait, « Applique-toi, je t'en prie, à méditer chaque jour les paroles de ton Créateur. » Apprends à connaître le cœur de Dieu dans les paroles de Dieu. Apprends à connaître le cœur de Dieu dans les paroles de Dieu. Selon ce que quelqu'un dit, il se manifeste. On connaît quelqu'un d'après ce qu'il dit. Voyez, les paroles, quand on veut connaître quelqu'un, il faut l'écouter. On ne peut pas connaître quelqu'un seulement par son agir, par sa façon d'agir, sa façon de se comporter, sa tenue, sa démarche, etc. Il faut d'abord qu'il parle. C'est alors qu'on découvre le fond de son âme. Voyez. Eh bien, c'est la même chose pour Dieu. Dieu parle dans la parole de Dieu. Et c'est là qu'on découvre le fond, pour ainsi dire, métaphoriquement, de l'âme de Dieu. Le fond de Dieu. Autant qu'on peut le connaître sur cette terre. La règle de Saint Augustin, par exemple, prévoyait 3 heures de lectio divina par jour. Et voyez, en fait, il n'y avait pas chez les anciens, bon, que ça soit maintenant, il ne faut pas le condamner, si vous voulez, hein, il faut comprendre, on vit une autre époque. Mais il n'y avait pas chez les anciens cette espèce de découpage de la vie spirituelle du chrétien, donc avec tout un tas d'étapes, surtout du moine, parce que le moine, c'est un chrétien parfait. J'entends, c'est un chrétien qui vise à la perfection, qui prend les moyens les plus parfaits de la vie chrétienne, plus précisément. Et donc, c'est un petit peu la référence. Bon. Et donc, dans la vie des moines, il n'y a pas de découpage. Le seul découpage, c'est le découpage de la prière. Et en fait, il n'y a pas de découpage entre la lecture et la prière. Le moine a toujours la Sainte Écriture avec lui, il lit la Sainte Écriture. Lecture, méditation, prière, tout ça pour lui, c'est un. La prière, la lecture mène à la prière. Et s'il en lisant une parole, eh bien ensuite il reste très longtemps dessus, toute la journée sur une seule parole, eh bien ça va bien. Si par contre il a besoin de lire plusieurs passages et qu'il y a plus de sécheresse, eh bien ça va bien aussi. Vous voyez, il y a cette espèce d'osmose, il n'y a pas de découpage, quoi. Il y a une unité, une simplicité. C'est là où la complication de la Sainte Écriture mène à la simplicité divine. Complication, pas dans le sens péjoratif, encore une fois. Saint Antoine de Padoue savait ainsi la Sainte Écriture par cœur, disait-on. Je me souviens avoir eu une fois, au séminaire, nous avons eu la visite d'un moine, d'un père prieur d'un monastère bénédictin, et de la tradition. Et alors, je le connaissais, donc je suis allé le voir, rendre visite. Alors c'était sur son bureau, donc c'est dans une cellule du séminaire qu'on lui avait donné, qu'on lui avait prêté. Et sur son bureau, il y avait le missel ouvert. Et en fait, c'est une bonne pratique, une vieille pratique qu'ils ont, les moines ont, certains au moins, on ouvre une page du missel ou on ouvre une page de la Sainte Écriture et on la laisse ouverte toute la journée. Et donc, quand on passe devant son bureau, eh bien, on a le livre ouvert. Voyez. Et le livre ouvert, c'est Dieu ouvert, finalement. Voyez. Alors, pour faire de la lecture et Sainte Écriture une lecture spirituelle, il faut un certain nombre de conditions. Il faut d'abord y accéder avec foi. Encore une fois. Parce que la Sainte Écriture vient nous donner la révélation, on ne peut accueillir la révélation qu'avec la vertu de foi. La vertu de foi, vous savez bien, l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Sainte Église, parce qu'étant la vérité même, vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Mon Dieu, je crois toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Sainte Église, et qui sont contenues, on ne le dit pas, mais c'est la vérité, et qui sont contenues dans la Sainte Écriture et dans la tradition. Donc c'est l'acte de foi qui nous fait accéder à la révélation qui est contenue dans la Sainte Écriture. Et donc si je lis la Sainte Écriture comme un protestant, hélas, pauvre protestant, sans la vertu de foi, eh bien je n'accède pas à la moelle de la Sainte Écriture, je suis dans la superficie. Donc tout ce qu'on vante sur les protestants qui, soi-disant, connaissent bien la Sainte Écriture, eh bien... Ils la connaissent. Vous pouvez trouver un théologien protestant qui connaisse très bien la Sainte Écriture matériellement, qui a une érudition parfaite sur la Sainte Écriture, sur sa composition. Mais s'il n'a pas la vertu de foi, et en tout cas ce n'est pas grâce au protestantisme qu'il l'aura, à raison de lui-même, le protestantisme fait qu'il ne l'a pas, même s'il se peut par accident et extraordinairement qu'il l'ait, mais normalement le protestantisme fait qu'il ne l'a pas, eh bien, s'il n'a pas la vertu de foi, il ne peut pas, on ne pourrait pas dire qu'il lit la parole de Dieu. Il la lit matériellement, mais pas en tant que parole de Dieu, parce qu'il n'a pas la vertu de foi. C'est la vertu de foi qui... Une simple fidèle qui lit une seule parole, la Sainte Écriture, une seule parole, un seul mot de la Sainte Écriture, avec la vertu de foi, connaît mieux la Sainte Écriture que le théologien protestant qui la connaît par cœur et qui n'a pas la vertu de foi. Il faut aussi avoir un désir de mieux connaître le bon Dieu pour l'aimer. Parce que, ici-bas, la connaissance doit se transformer en charité. Il faut ouvrir son âme. Il faut demander au Saint-Esprit d'élever en nous le désir. Désir de mieux accéder aux richesses de la Sainte Écriture. La lire avec docilité, ne pas discuter. Même s'il y a des choses qui nous surprennent. Et si elles nous surprennent, on essaie de lire avec les commentaires. Vous savez qu'il y a beaucoup de commentaires. Bon, évidemment, vous n'avez pas nécessairement accès à ces Bibles commentées, mais ça existe, sachez-le, des Bibles avec des commentaires, en français, et qui font des récapitulations de tout ce qu'a dit l'Église, qu'ont dit les Pères, etc. Et donc, quand on lit ces commentaires, et bien, quand on a une difficulté, on peut se référer à ces commentaires, et comme ça, on sait ce qu'il faut comprendre, voyez. Bon, ça existe. Puis si vous n'avez pas ces commentaires, vous pouvez demander aux prêtres ou à des personnes qui peuvent vous aider quand il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais évidemment, l'attitude, c'est la docilité, ce n'est pas la discussion, voyez. Donc ça, c'est important, voyez, parce que chacun d'entre nous, nous avons toujours tendance, par tout un tas de raisons, à nous passer de certaines pages de la Sainte Écriture. Et la nature des pages que nous aimerions, sur lesquelles nous aimerions sauter, est très révélatrice de notre état d'âme. Il y en a un qui aimera bien sauter sur « Heureux les cœurs purs », un autre sur « Heureux les doux », un autre sur « Heureux les pauvres », un autre sur « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors, les dames auront tendance à sauter sur certains passages. Les hommes aussi. Alors attention, voyez, il faut avoir cette docilité profonde. Et chercher en la Sainte Écriture le centre, qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament prépare Jésus-Christ. Le Nouveau Testament le raconte et le continue, le poursuit, jusqu'à la fin des siècles. Voyez, donc, toute la Sainte Écriture est centrée sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le Verbe s'est incarné. Verbum caro factum est. Le Verbe s'est fait chair. Donc, nous cherchons le Verbe, mais c'est le Verbe fait homme. Et nous l'avons là. Donc, il faut le chercher. Chercher Jésus-Christ. Quand nous lisons les psaumes, en particulier. Les psaumes sont magnifiques et souvent ils racontent le Christ. On pourrait prendre des exemples à foison dans la Sainte Écriture, des psaumes comme figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on lit les psaumes comme ça en cherchant Jésus-Christ, alors les psaumes prennent une dimension toute nouvelle, magnifique. La Sainte Écriture, en plus, est comme toute chose dans les mains de la Providence, voyez, très important dans la vie spirituelle d'avoir ce regard sur la Providence du bon Dieu. La Providence du bon Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Dieu est notre Père. Et notre Père nous parle. Et il nous dit ce que nous avons à entendre au bon moment où nous devons l'entendre. Donc, ayons le regard de foi de nous dire, si j'ouvre la Sainte Écriture, aujourd'hui, eh bien, à telle page... Eh bien, c'est parce que le bon Dieu a voulu que je l'ouvre à cette page, parce que dans cette page, il y a quelque chose pour moi. Et pour les autres, pour ceux qui sont autour de moi, auxquels je peux faire du bien. Même si, aujourd'hui, j'avais prévu de lire la page qui suit celle d'hier. La providence ne passe pas par l'extraordinaire, elle passe par l'ordinaire. La providence, c'est qu'aujourd'hui, je lis le chapitre suivant de celui que j'ai lu hier. Et la providence me donne la grâce pour le lire et la foi pour le lire. Mais également, la providence a prévu que dans ce nouveau chapitre, eh bien, c'est celui qui fait suite à hier. Je ne vais pas chaque matin me dire, tiens, au hasard. Ah oui, c'est ça, ça y est, c'est pour moi. Non, c'est pas une boule de cristal. Mais même si c'est la suite d'hier, eh bien, c'est ce qu'il me faut aujourd'hui. Du moment que j'ai décidé que j'allais commencer, par exemple, la deuxième épître de Saint-Pierre, et que là, je continue. D'ailleurs, ça tombe mal, parce qu'il n'y a qu'un chapitre dedans, je crois. Non, il y a plusieurs chapitres, ça va. Donc, même si, aujourd'hui, j'avais déjà prévu que je lirais par ordre un chapitre après l'autre, tant pis. Cette décision, si elle est surnaturelle, c'est une grâce de Dieu. C'est ça, le regard de la providence sur nous. Et donc, Dieu va me parler. Rappelez-vous, saint Augustin, il combat. Parce qu'il a une femme, et il sait que s'il doit se convertir au catholicisme, il faut qu'il quitte la femme. Alors, il y a le combat dans son âme, ce combat, ce dur intérieur, qui dure depuis très longtemps, dans lequel il est aidé par sa sainte mère, sainte Monique, par les prières de la sainte Monique. Et un jour, il ouvre la sainte écriture, vous connaissez ce passage qui est raconté dans les confessions, il entend dans son cœur, comme une parole qui lui dit « prends et lis ». Il ouvre la sainte écriture, et là il tombe sur une parole de saint Paul. Défais-toi, je ne sais plus la mais en substance, défais-toi de l'habit, de l'impureté, etc., de l'impudicité, et rentre dans la voie de la vie. Voilà, rentre dans la voie de la vie. Défais-toi des choses du monde et rentre dans la voie de la vie. Et alors, saint Augustin rentre. Il y avait pour lui cette parole de Dieu à ce moment-là. Et pour nous, eh bien, c'est la même chose. Sachons pour chacun de notre instant, nous avons en quelque sorte une conversion à faire à chaque instant. Bon, conversion très différente, vous comprenez, dans un sens pas toujours strict, mais large. Mais c'est une conversion qui doit être continue. Et pour elle, nous avons la Sainte Écriture pour nous aider, la parole qu'il nous faut. C'est lorsqu'on fréquente la Sainte Écriture, et évidemment les clercs n'ont pas grand mérite à le faire, puisque c'est leur devoir, eh bien, on s'aperçoit très très vite que, eh bien, pour chacun, la Sainte Écriture a la parole qu'il faut au bon moment. Voyez, elle est toujours à se nourrir. Alors, eh bien, comment faire d'abord, bien profiter de la Sainte Écriture qui est donnée de façon habituelle pour vous, ça veut dire à la Sainte Messe. Voyez, les textes de la Sainte Écriture qui sont contenus en particulier dans le temporal et dans le sanctoral, au propre, donc le dimanche, eh bien, les introïdes graduelles, etc., les lire lentement, pas trop vite. On peut les lire avant, comme font parfois certains, avant la messe ou l'après-midi, on peut revenir dessus, donc relire ces textes, bien s'en pénétrer, bien écouter les explications qui sont données par l'officiant à la Sainte Messe ou à la prédication. Et puis ne pas hésiter, comme font certaines personnes, eh bien, à lire un peu, sinon chaque jour, au moins régulièrement. Voyez, bon, lire chaque jour, ça n'est pas facile à tout le monde. Voyez, pour une mère de famille, évidemment, c'est pas facile. Pour une étudiante, ça l'est parfois plus. Pour une personne qui est retraitée, il y en a qui le font. Lire chaque jour la Sainte Écriture. Si ce n'est pas chaque jour, au moins chaque dimanche, vous voyez, d'essayer le dimanche de dire, bah tiens, le dimanche, voilà, je vais lire, parce que le dimanche c'est le jour de la sanctification, c'est un jour sanctifié où on glorifie davantage le bon Dieu, et bien prendre se dire, voilà, tous les dimanches je lirai un chapitre de la Sainte Écriture, voilà. Et en lisant un petit peu avec toutes ces dispositions et en demandant au bon Dieu de nous guider, de nous faire connaître, de ne pas nous arrêter aux mots. Il ne s'agit pas de savourer les mots simplement pour le plaisir des mots. C'est vrai que parfois il y a une grande poésie dans les textes. Cette poésie, il ne s'agit pas, voyez, de la mépriser complètement, parce que la sensibilité est frappée par la poésie, voyez, surtout dans la poésie des psaumes. La sensibilité est frappée par la poésie et c'est un plaisir de la sensibilité. Et ce plaisir est bon, parce qu'il est voulu par le bon Dieu, voyez. Mais c'est un plaisir qui doit amener à la contemplation. Ah, mais ça, c'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'il a à me dire là-dedans, voyez. Et non pas s'arrêter à l'écorce des mots, voyez. Simplement s'arrêter là, parce que c'est bien dit, voyez. Non, aller plus loin. Évidemment, c'est d'abord la foi, l'espérance et la charité que nous cherchons. Par quel livre commencer? Bien sûr, les évangiles. Les épîtres de Saint Paul. La Genèse. Les psaumes. Ensuite, les autres épîtres. L'Apocalypse, il faut la lire avec un commentaire parce que c'est très difficile hein, comme livre. Les prophètes Isaïe, vous pouvez aller lire Isaïe, en particulier chapitres 50 à 53, ils sont très très beaux, une prophétie de notre Seigneur. Et puis tous les livres historiques de l'Ancien Testament, bien sûr, les livres des rois, les livres des Maccabées, etc. Bon. Alors demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de nous apprendre à lire, à aimer la Sainte Écriture. Je voulais vous lire, mais on n'a pas le temps. Des très beaux extraits des commentaires de saint Augustin sur la première épître de saint Jean. Donc si quelqu'un désire consulter cet ouvrage qui me le demande, et puis si en particulier quelqu'un désire non pas le lire en entier, mais savoir quels paragraphes peuvent lui faire un peu découvrir saint Augustin, eh bien je le tiens à sa disposition. Saint Augustin qui est vraiment donc on venait pas d'instruction, je crois, sur les pères de l'Église, mais c'est un père qui est extraordinaire, extraordinaire. Hein. On s'enrichit beaucoup à le lire. Enfin, moi, je suis pas un grand connaisseur, mais on s'enrichit beaucoup à le lire, en particulier dans cette connaissance et cet amour de la Sainte Écriture, hein, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, encore une fois, eh bien, c'est l'expression du Verbe de Dieu, et c'est donc l'expression de Dieu lui-même. Et donc, par la parole, Dieu se révèle.